Bienvenue dans Les Infaillibles, le podcast des managers qui se racontent avec authenticité. Nous sommes Sandy Mélamed et Estelle Zakarian. Anciennes managers dans la tech et le conseil, et aujourd'hui coach en entreprise, nous nous sommes fixés pour mission de résoudre un problème majeur. Que les managers puissent être authentiques et arrêtent enfin d'endosser un costume qui est tout sauf confortable pour eux comme pour leurs équipes. Si comme nous, vous pensez que manager est un job à part entière qui n'est pas toujours évident, ce podcast est fait pour vous. Être manager nécessite de se connaître et parfois de vivre des situations qui bousculent. C'est donc pour vous aider à y voir plus clair, mais aussi pour vous sentir moins seul, que dans chaque épisode, un manager vient partager sans langue de bois son expérience du management et ses conseils pratiques pour vous inspirer dans votre quotidien. Si vous aimez l'épisode qui va suivre, partagez-le et mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous ajouter dans vos favoris Deezer ou Spotify afin de faire connaître notre émission en lui permettant de remonter dans les classements. C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute! Notre invitée du jour est Charlotte Abdelmour qui travaille chez Octo. Charlotte y travaille depuis plus de 10 ans. Avant ça, elle a fait ses études entre la France et l'Allemagne, entre le management et le business. Elle rentre ensuite chez Octo au moment où l'entreprise ne compte qu'une centaine de personnes. Et elle prend très rapidement un rôle transverse en interne, aussi bien sur le fonctionnement que sur le volet culture et transmission. Elle a d'abord été lead, communication et marketing. Et puis, depuis 2 ans, elle a pris la responsabilité de ce qu'on va appeler dans beaucoup d'entreprises la stratégie RSE. Donc, elle est lead sustainability chez Octo. Et sa responsabilité est de participer ou d'accompagner la transformation du modèle d'Octo vers un mode opératoire plus responsable. Charlotte est une femme engagée. Elle est bénévole depuis plusieurs années dans des organisations qui soutiennent l'intégration dans la tech de femmes réfugiées. Elle est également très engagée, évidemment, dans la transition environnementale des organisations. Le lien avec son métier est donc tout trouvé. Nous sommes très heureuses d'avoir reçu Charlotte, qui vient nous raconter avec beaucoup de sincérité un sujet que nous n'avions jamais abordé jusque-là. Se questionner sur l'envie de manager. Et oui, elle vient nous parler du moment où, dans sa carrière, elle a ressenti une forme de lassitude, une perte d'énergie à accompagner son équipe, et comment, en conscience, elle a fait le choix d'arrêter de manager, pour y revenir un peu plus tard. C'est un témoignage courageux et généreux qui met en valeur le fait que manager nécessite de se remettre en question presque en permanence et de rester connecté à son envie et ses motivations profondes. Avec Charlotte, on s'invite à se poser 2 questions essentielles. Avons-nous envie de manager? Et est-ce que l'on prend le temps de s'occuper de soi? Dans un monde où, dans beaucoup d'entreprises, la seule voie pour progresser est le management, il est rare de se poser ces questions. Alors avec Charlotte, on aborde le sujet de la culpabilité, on aborde l'approche du manager au rabais. C'est un des épisodes les plus longs. Et on s'est refusé à couper certains passages parce que l'introspection et la réflexion que nous invite à faire Charlotte sur ce sujet étaient trop importantes pour nous. Pour les auditeurs qui nous connaissent, on est sûr que vous accepterez ce choix éditorial d'un épisode plus long que vous pourrez écouter en plusieurs parties si vous le souhaitez. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Bienvenue au micro des Infaillibles. Comment ça va?
Eh bien, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être là, enfin. Et il fait beau, donc je suis ravie.
Et voilà, on est lundi matin, il y a un beau soleil et on est ravis d'être ensemble toutes les trois avec Sandy qui est là. Sandy, tu vas bien ?
Je vais bien également. Hâte d'entendre Charlotte.
Hâte d'entendre Charlotte. Bah, alors justement, voilà, Charlotte, quand nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois pour échanger sur ta venue dans notre podcast et identifier le thème sur lequel tu interviendrais, tu nous as immédiatement fait confiance en nous parlant de ton parcours de manager, des questions que tu avais pu te poser et surtout des remises en question que tu avais pu avoir. Et nous avons été impressionnés par ta prise de recul et avons ensemble choisi de parler justement de ces remises en question autour de l'envie et de l'énergie que tu as pu avoir au fil de ta carrière dans ton rôle de manager. On parle souvent de la motivation des collaborateurs et du rôle du manager à motiver ses équipes, mais effectivement, qu'en est-il de la motivation du manager lui-même à manager? Donc, c'est la bonne question que nous allons pouvoir traiter avec toi au travers de cet échange. Ça te va?
Ouais, c'est très bien formulé.
en deux mots, donc pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous présenter très rapidement ce que fait Octo, l'entreprise dans laquelle tu travailles, et ce que toi tu y fais en tant que Sustainable Transformation Manager ou Sustainable Lead, ce qu'on appelle aussi en français responsable RSE, mais je comprends que ton job va un peu au-delà quand même de la RSE classique.
C'est parti. Alors je me suis mise le challenge, j'ai lu la consigne, j'ai entendu présentation d'Octo en deux mots. Alors, j'ai fait deux mots. On fait du conseil et du delivery.
Parfait.
Mais c'est pas hyper intéressant jusqu'ici. Donc, je vais prendre un peu plus de deux mots.
Vas-y.
On est ce qu'on appelle grossièrement une ESN. On délivre des services numériques pour nos clients, en gros. On a été fondé en 1998, champion du monde à ce moment-là. On est 800 à 900 octos, à peu près. Et notre activité principale, c'est d'accompagner nos clients du design au développement de leurs besoins en services numériques. On a toujours été très fans de tout ce qui est méthodo, le management, on a été pionniers sur l'agilité à l'époque, et on a décortiqué aussi des principes comme la sociocratie récemment. Mm-hmm. On a un positionnement fort sur ce qu'on appelle le numérique essentiel, qui va au-delà de l'éco-conception. On parle de plus en plus des sujets de type atténuation et adaptation dans nos discours, en lien avec le monde dans lequel on évolue. On bosse aussi beaucoup sur des enjeux de diversité et d'inclusion. En gros, on essaye de faire notre part et qu'elle soit la plus grande possible, comme le colibri de Pierre Rabhi. Donc voilà ce qu'on fait chez Octo. Conseil et delivery, services numériques, et on gravite. Il y a plein de trucs qui gravitent autour de nous, autour de la méthode, du management, enfin du geste et de la manière de faire. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Je suis arrivée il y a 11 ans. Précisément 11 ans. Et j'ai passé les 9 premières années à piloter l'activité de la communication et du marketing d'une équipe où on était une bonne dizaine. Ça a fluctué de 8 à 15, on va dire. Donc, je m'occupais de ça. Je m'occupais vraiment de la partie delivery des projets de communication et de marketing. Parce qu'il faut savoir qu'Octo, on est une boîte un peu particulière. On est aussi bien cabinet de conseil et delivery, mais on est aussi maison d'édition. On est aussi un peu comme une agence événementielle. On a tellement cette... valeur du partage au cœur de nos activités, que on partage de façon les plus extravagantes possibles, mais on écrit des bouquins, on fait des confs, on a un blog qui est hyper alimenté, donc l'activité de la communication en interne, elle est quand même, c'est presque, on fait le parallèle des fois comme une agence en interne, une agence de com. Donc ces activités, elles sont hyper intéressantes, on a une chaîne de production assez dense. Donc j'ai fait ça pendant 9 ans. Et il s'est passé quelque chose à un moment. Alors déjà, j'attendais un enfant, grand bouleversement. Et depuis quelques temps, j'avais la directrice des opérations à l'époque qui me faisait des gros coups de talonnade de pied sous la table pour aller bosser avec elle sur des sujets transverses. Parce que Octo, c'est une boîte que j'ai vu grandir de 150 personnes quand je suis arrivée en 2013 à aujourd'hui, comme je disais, 800 à 900 Octo. Et donc... ça a été facile pour moi, enfin ça a été très naturel d'être, et je déteste les cases, mais d'être dans une case, mais de vouloir en sortir et du coup de bosser sur des projets transverses complètement indépendants de mes activités. Et donc cette directrice des opérations, Dominique, elle venait me chercher et en même temps je venais la chercher, enfin on se regardait beaucoup parce que elle travaillait justement en transverse sur la partie operating model d'Octo. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours fascinée, c'est comment une boîte tourne, quels sont les tuyaux, enfin je vois ça un peu comme de la mécanique. Donc, elle m'a fait ses appels du pied.
Appel du pied, du coup, pour faire quoi? Pour prendre la responsabilité RSE, c'est ça?
Exactement, pour créer un job pour faire pivoter l'operating model d'Octo autour des enjeux environnementaux et sociaux, pour faire en sorte qu'on on développe un modèle d'entreprise plus responsable.
Et donc, ça consiste en quoi?
Et ça consiste en... c'est ce qu'on appelle classiquement une responsable RSE. C'est en gros, on pose une stratégie pour l'entreprise autour des enjeux environnementaux, sociaux. Par exemple, on va élaborer une stratégie bas carbone que toute entreprise se doit de construire. Donc, ça passe par une mesure de l'empreinte carbone, ça passe par s'attribuer des concepts comme le donut, les limites planétaires... comment on inscrit l'activité d'entreprise là-dedans, quel est notre impact au niveau de la biodiversité, au niveau de l'eau, qu'est-ce qu'on met en place autour des enjeux, comme je disais, diversité, inclusion. Ça passe par, en gros, faire un pas de côté, regarder nos activités et se dire quel est notre impact, même si on n'aime pas trop ce terme, quel est notre impact sur l'environnement et la société en tant qu'activité de conseil et de delivery.
Alors, donc, pardon, je t'ai coupé.
Non, je disais, c'est passionnant parce que du coup, on voit toute l'activité de la boîte sous un prisme différent, quoi. Au-delà du côté business, profit, et ainsi de suite.
Combien de personnes tu as dans ton équipe aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'ai une équipe qui est super. On est trois. Donc, je manage deux personnes, bientôt trois, donc on sera bientôt quatre.
Et avant, tu avais managé jusqu'à combien de personnes, tu disais tout à l'heure ?
Et j'ai managé jusqu'à une dizaine de personnes, 8, 10, ça dépendait des moments.
Bah alors du coup, c'est quoi pour toi être un bon manager ?
Alors, ça boucle complètement avec ton introduction, parce que le premier truc qui m'est venu en tête, c'est un manager, c'est quelqu'un qui a envie de manager, tout court. Et je dis ça parce que souvent, on va se dire, bah non, t'es pas au niveau dans le framework carrière, ou t'es pas là depuis assez longtemps, ou t'es trop jeune, tu t'y connais pas assez, tu connais pas toutes les activités. Et alors, c'est des choses qui, c'est hyper important quand même. Mais je pense surtout qu'un bon manager, pour moi, c'est, après avoir coché des cases, des prérequis en fonction de la boîte, c'est quelqu'un qui a envie. Qui va apprendre, enfin, qui est capable d'apprendre tous les jours, qui va aimer apprendre, qui a une capacité d'écoute particulière aussi. Mmh. Et après, j'ai en tête des mots. Moi, je parle souvent d'empathie, d'humilité, une capacité à se remettre en question. Et quand on a préparé le podcast, je faisais le parallèle qui est hyper border à faire avec la parentalité, mais où, dans lequel moi, j'ai baigné à fond, là, dans ma transition de manager. Et du coup, je m'y retrouvais à chaque fois, là-dedans, en fait, voilà, je me suis dit, bah, en fait, pour moi, en ce moment, un bon manager, c'est déjà quelqu'un qui en a envie, et ensuite, cette capacité, ouais, de se remettre en question, d'écouter tout ça.
Et qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier en tant que manager jusqu'à présent ? Qu'est-ce qui te rend le plus fier ?
Je pense que c'est toute l'introspection que ça active en moi sur les émotions. Je suis quelqu'un qui, je pense, je suis autant cérébral que dans l'émotion. Donc des fois, ça fait un peu le bordel, ça crée un peu de bazar. Mais ce rôle de manager, il active ces deux capacités d'être dans le cérébral pour se dire, bah, je suis responsable d'accompagner une équipe, des gens, une entreprise, une activité. Et en même temps, moi, ça me fait bouillonner d'émotions sur ce que c'est de porter ce rôle, sur cette responsabilité et sur le devoir que c'est. Et donc, tu vois, ça vient vraiment comme si j'avais deux marmites sur le feu en train de bouillir en même temps, ce qui est quand même une situation un peu chaude en cuisine, quoi. Mmh. Et ben moi, c'est ça. Et c'est hyper stimulant et c'est en même temps assez... ouais, il y a une petite pression, quoi.
Et qu'est-ce que ça t'a permis justement d'avoir ces deux capacités cérébrales et émotions auprès des personnes que tu as encadrées, managées ? Est-ce qu'il y a une chose, un exemple que tu as en tête d'une fierté que tu as, que tu attribues à ces deux capacités ?
Je pense que ça va être un peu tout l'épisode du podcast sans...
Ok, donc sans on va pas faire de spoiler.
Je pense que c'est de me manager en même temps que je manage des gens. Mmh. Tu vois, il y a ce truc de... Je parlais d'introspection, c'est vraiment... Je fais en sorte d'essayer d'accompagner d'autres personnes à ouvrir des portes ou à fermer des tiroirs, des fois. On fait cette métaphore. Et j'ai le même travail en parallèle sur moi. Mmh. Et je trouve que c'est une hygiène de vie qui est hyper importante, quoi, hyper saine, aussi bien en tant que citoyen, individu, parents, managers, enfin peu importe quoi, c'est un devoir envers soi-même. Quoi.
Alors je disais au début de l'interview, j'ai hâte de t'entendre Charlotte et j'ai encore plus hâte là par rapport à ce que je viens d'entendre. Alors je t'explique pourquoi. Finalement, ce que tu nous expliques, c'est que le manager doit avoir envie, le manager doit se manager et ça, c'est des choses qu'on n'entend pas naturellement. C'est-à-dire que en général, ce qu'on va plutôt entendre, c'est bah, tu passes manager parce que c'est la prochaine étape de ton parcours, donc tu y vas, mais tu ne te poses pas trop de questions sur toi. Donc tu ne te poses pas nécessairement la question de l'envie, et, ouais. Qui pour moi est une question essentielle pour être bien déjà et pour être un bon manager. Et puis tu as effectivement la notion de se manager, donc tu penses à tes collaborateurs, etc. Et là, j'aime bien le côté, c'est aussi se manager soi-même. Et parfois, c'est ce qu'on va mettre de côté parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a le business, parce qu'il y a les collaborateurs, parce qu'il y a les clients. Et donc, voilà, j'aime bien ce côté où, bah, à un moment donné, il faut aussi penser un petit peu à soi pour être un bon manager. Et c'est tout l'enjeu du thème qu'on va aborder ensemble autour de l'envie, de l'énergie Et du coup, que nous, on a traduit par la motivation. Alors, pourquoi t'as eu envie, justement, aujourd'hui, de nous parler de ça, de ta motivation à être manager ?
J'ai eu envie d'en parler, enfin, de fil en aiguille, Alors déjà, merci, parce que vous m'avez fait mettre le doigt sur des choses. En fait, ce podcast, il arrive à un moment où je sors d'un épisode. Alors, je sais pas si j'en sors, mais en tout cas, je suis capable de prendre ce recul sur ce qui s'est passé dans ma vie personnelle et aussi bien en tant que manager. Et du coup, il m'a aidé à faire une sorte de bilan et à me dire, mais oui, mais en fait, c'est ça, t'avais peut-être plus envie et c'est OK, quoi. Et donc, c'est important pour moi aujourd'hui d'en parler parce que je pense que ça peut être la cause de pas mal de problèmes. Et tu vois, tu disais, on oublie de se manager et tout ça. Pour moi, c'est un des premiers trucs à faire parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est que je pense que j'ai oublié de me manager, j'ai oublié de m'occuper de moi, j'ai oublié de me demander si j'avais envie. Et en fait, ça se répercute. Alors, je sais pas si ça a été visible, j'ai pas eu de feedback particulier, mais ça a joué sur ma motivation à un moment. Je me suis dit, j'ai plus envie, je crois, en fait. Et en faisant ce pas de côté, en discutant avec toi en préparation, je me suis dit, mais en fait, j'ai remis le pied à l'étrier direct, et une fois qu'on se connaît, on sait sur quel bouton on appuie, et hop, c'est reparti, le TGV est lancé à nouveau, quoi. Mais ta question, c'était en quoi c'était...
Pourquoi t'as eu envie de nous parler de la motivation du manager, et en tout cas, ta motivation et ton envie, et puis peut-être tu peux nous raconter justement cette étape dont tu parles, ce qui s'est passé pour toi.
Complètement. Alors moi j'ai démarré dans le management un peu comme pas mal de personnes, je pense. J'ai démarré jeune déjà, et j'avais envie parce que je me disais ça a l'air d'être un truc important, et comme je te disais, tu vois, il y a des gens, tu te dis ils ont l'air importants, ils ont plein de rendez-vous, ils sont toujours occupés, ils managent, donc ça faisait un peu plus tu manages de gens, plus t'as l'air important, quoi. Et j'ai eu envie surtout parce que j'étais dans une équipe, dans cette équipe com, où on est beaucoup dans de la prod, on produit des choses. Et j'adorais ce rôle. Alors, en fait, ça peut être aussi manager de terrain, du coup, manager de projet. Et la frontière est assez fine chez nous, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Damien. Mais j'aimais ce côté être au cœur de l'action et avoir la capacité d'agir, d'interagir, là où le problème ou la solution est. J'aimais ce rôle à la croisée des chemins un peu. Et je me disais, j'ai envie de devenir manager. Je bassinais mon manager à l'époque, Nelly, pour ça, en disant, je pense que c'est le bon moment. Ça va être cool, quoi. Donc je suis devenue manager au bout d'un certain temps et surtout, j'adorais ce côté coach. Et du coup, j'allais lire des bouquins, écouter des confs pour choper des techniques et me dire comment je peux rendre le truc intéressant pour les gens que je manage, comment je peux leur donner envie de continuer à être managé par moi, parce que en fait, c'était pas acquis. J'étais pas dans un framework carrière particulier qui faisait qu'au bout d'un moment, paf, tu manages. Donc, j'avais envie de cultiver ce truc. Je l'ai fait, ça s'est passé comme ça pendant 5-6 ans, on va dire. Et c'était hyper chouette. On a une communauté de managers en interne. On fait du codev, du pair managing, des choses comme ça. Où en fait, t'es jamais seul. T'es rarement seul en tant que manager. Et puis surtout, j'aimais ce truc où tu continues à apprendre tout le temps en fonction de différentes inspirations que tu peux avoir, de différentes formations qu'on te propose, des bouquins qui tournent, justement des podcasts comme les vôtres, par exemple. Et donc, ça me permettait d'avoir un domaine sur lequel j'étais en apprentissage continu et surtout, je dis toujours, tu mouilles la chemise. Alors, je fais jamais de chemise, donc tu mouilles le t-shirt, mais ça, j'aimais. Et donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est que avec ma compagne, on a la chance d'attendre un enfant il y a 2 ans, quoi. Et ça vient chambouler plein de trucs dans ma tête parce que au fur et à mesure de la grossesse, c'est un moment aussi où je suis au summum de mon management. Je manage le plus de monde que j'ai managé dans toute ma carrière. Sauf qu'il se passe un truc à la maison qui, au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai de moins en moins. Enfin, la conséquence, c'est que j'ai de moins en moins envie de manager. Je me rends compte qu'en fait, je suis sur un terrain glissant de. Ah là, faut que j'enchaîne mes O3, les one-on-one chez Octo. J'ai telle personne qu'il faut que j'accompagne sur tel sujet et je commence à avoir un sentiment de culpabilité parce que je me dis j'ai pas toute ma bande passante, je suis en train d'être à 50% et du coup je suis aussi à 50% à la maison pour m'occuper de ma copine, de cet enfant qui va grandir dans notre foyer, toute l'organisation que ça nécessite, toute la remise en question du coup que ça me pose. Et donc je me voyais être un peu mi-figue mi-raisin sur les deux terrains quoi.
Et le déclic, si ouais. Ouais, vas-y, je te laisse finir.
Ben, le déclic, je l'ai eu, excuse-moi, j'enchaîne.
Vas-y, enchaîne.
Le déclic, je l'ai eu surtout côté boulot, pas vraiment à la maison. Je l'ai eu parce que je commençais à me demander si j'étais en train de bien manager les personnes que je devais manager. Et donc, je sentais cette culpabilité un peu dans mes échanges, dans vouloir en faire encore plus, sous-entendu, j'en fais pas assez.
Voilà, donc là, finalement, ce qui te fait sentir le truc, comme tu dis, c'est une forme de lassitude à faire, entre guillemets, ton devoir de manager. Là, en l'occurrence, c'était les entretiens individuels. Et puis, ouais. Tu t'es posé la question, est-ce que tu manages bien ? Qu'est-ce qui t'a fait poser cette question ?
Bah,
qu'est-ce
qui t'a
fait sentir cette culpabilité dont tu parles ?
Je sentais que tu vois, je parlais d'écoute en introduction. Je sentais que ma capacité d'écoute, elle était de plus en plus réduite. Que j'avais le cerveau qui partait à certains moments. En mode mince, faut pas que j'oublie de faire tel truc, et puis j'avais de moins en moins cette capacité à prendre, et il faut pas, le rôle du manager c'est pas non plus prendre les problèmes des autres, mais j'avais moins cette capacité d'écoute et d'accompagner mon ou ma manager vers une solution, vers un chemin qui allait lui correspondre.
Alors, tu nous disais, quand on a préparé l'interview, qu'à ce moment-là, en fait, tu n'avais plus souhaité manager parce que tu ne voulais pas être un manager au rabais.
Ouais.
L'expression nous avait marqué avec Estelle. Qu'est-ce que tu entends par manager au rabais au-delà, est-ce que c'est voilà, ce manque d'écoute, la lassitude à faire les entretiens?
Mais le terme, il est un peu... je sors des trucs comme ça et après, je me dis, ouais, c'était un peu barbare quand même. Mais alors, c'est vrai, pour moi, je me l'attribue à moi, un manager au rabais, c'est... quand tu fais les choses parce que tu dois les faire, et en soi, en fait, c'est comme dans la vie, il y a des moments où tu fais les choses parce que tu dois les faire. Mais ce moment, il faut pas qu'il dure trop longtemps pour moi. Le manager au rabais, c'est par exemple quand je me retrouvais à mettre tous mes O3 au même moment pour me dire, je fais ça, comme ça, après, hop, pour la semaine, c'est fini. Et ça, cette phase, je me suis dit, mais attends, ça, c'est ce qu'on appelle un peu un crapaud chez nous. En gros, tu le manges le plus vite possible, comme ça... t'es tranquille avec des gros guillemets le reste de la semaine. Et je me disais, mais oh là là, la cata Charlotte, quoi. Parce que jusqu'ici, c'était un plaisir. En fait, je me disais, trop bien, je vais voir telle personne, là, je vais passer du temps avec telle personne. Les one-on-one, c'est pas des entretiens annuels, individuels, c'est vraiment toutes les semaines, on a 30 minutes en moyenne manager-manager. Et souvent, je me disais, viens, on va dehors, on va se balader dans tel parc, viens, on fait tel format, enfin... je m'éclatais en fait, et là je me voyais plus m'éclater, et je me disais mais si moi je m'éclate plus, ben en fait la personne en face de moi elle s'éclate pas du tout non plus. Et au rabais du coup c'est ça, c'est quand tu sais ce que t'es capable de faire, mais que tu proposes une version promo discount de toi-même quoi.
Moi ce que je me demande là en t'entendant c'est cette prise de recul, cette introspection dont tu fais preuve là, mais a posteriori, t'as fait ça toute seule Enfin, parce que je me dis, voilà, manager, prise dans le rush, enfin, on le sait, hein, tous les managers qu'on accompagne, ils sont accaparés par le business, par leurs équipes, etc. Comment tu as eu cette prise de recul ?
Je pense que j'ai eu des anti-modèles autour de moi, des anti-modèles que j'ai vus. Alors, soit dans mon cercle personnel, des gens qui prenaient le management comme un statut, mais du coup, se disaient qu'un peu la partie humaine, c'était, en gros, je coche la case, et puis voilà. J'ai vu des gens manager... pour le statut, pour soi-disant la REM que t'as en plus, ce qui est pas le cas du tout chez nous en plus, chez nous, chez Octo. J'ai vu mon manager à certaines périodes être complètement débordé et du coup s'accrocher pour continuer à vouloir bien faire les choses, mais où moi je sentais bien, vu qu'on s'est connus pendant très longtemps et c'est quelqu'un qui m'a managé pendant du coup 8-9 ans. J'ai vu ces oscillations. J'ai vu des gens chez Octo, des managers, j'ai discuté avec des managers et des managers se dire, bah ouais, mais moi, les O3, quand j'en ai, j'ai de la chance, et puis sinon, c'est un point d'activité, et puis basta, quoi. Et ça, je l'ai vécu à certains moments, et c'est hyper, je suis assez, je sais pas si ça se dit, reconnaissante, remerciante, on va dire, envers ces expériences, parce que ça me permet. Je pourrais pas être ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu ces expériences-là, si j'avais pas eu ces échos, ces discussions, ces feedbacks. Et ça m'aurait pas permis de me rendre compte à ce moment-là que j'étais en train de partir dans un truc dans lequel je voulais pas aller. Et j'ai eu ce break qui arrivait. En fait, j'avais le congé deuxième parent que tous les deuxièmes parents ont la chance d'avoir en France, qui fait que tu le prends en général au moment où ta compagne va accoucher. Donc en fait, et moi, ma boss revenait de congé mat à ce moment-là. Donc en fait, on s'est croisés dans un truc de maternité où je suis partie du jour au lendemain et du coup, je lâchais entre guillemets les gens que je manageais jusqu'ici. Je devais faire des passations pour qu'elles reprennent, enfin qu'elles prennent leur management. Et j'allais m'absenter pendant les 5 mois que je prenais de break maternité, mais je revenais pas parce que je revenais chez Octo en changeant de boulot. Donc en fait, c'était une équipe que j'allais pas recroiser. Et c'est des gens que j'avais managés pour certains pendant des années. Pour d'autres, depuis 1 ou 2 ans, mais on avait vécu des trucs quand même ultra costauds ensemble entre les années Covid et maintenant. Et du coup, on a vécu, je pense, parce qu'on s'en est pas vraiment reparlé, et ça rajoute du chelou à la situation, mais on en parle un peu maintenant. En fait, je suis partie, j'ai fermé la porte, je me suis pas retournée, et j'ai eu 5 mois, alors j'ai pas passé les 5 mois en introspection sur ce qui s'était passé au boulot, mais j'ai fait un énorme pas de côté en devenant maman, en re-questionnant mon rôle, enfin, mon rapport au travail, mon rapport au management. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais débranché la prise au bon moment parce que j'avais plus envie de ça à ce moment-là. J'avais envie de me dire, enfin, j'étais en train de démarrer une aventure complètement surnaturelle et en même temps complètement naturelle de devenir parent. Et cette capacité de remise en question, elle était prise par ce rôle-là. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, mais j'ai débranché la prise pile au bon moment parce que je pense que j'aurais fait des dégâts, enfin, avec façon de parler, mais ça aurait pas été bien d'être manager, enfin de m'accrocher tant bien que mal à ce rôle, sachant qu'en fait j'étais ailleurs, quoi.
Donc là, si je comprends bien, t'as cette remise en question et cette cette perte d'envie, j'allais dire, pile au moment où tu dois partir.
Ouais.
Ça tombe bien.
Oui.
Mais dans quelle mesure, parce que tu parlais de ta relation avec ton équipe, finalement c'est des gens que t'as managé pendant plusieurs années puis que t'as plus revu après.
Oui.
Comment ça s'est passé pour eux et est-ce qu'ils se sont rendus compte aussi de cette lassitude ? Ou ils n'ont pas eu le temps peut-être ?
Alors ça s'est passé différemment en fonction des personnes parce qu'il y a des gens que j'ai gardés en discussion. Il y a des gens qui m'ont contacté pendant les 5 mois où j'étais en break parce qu'on avait tissé une relation un peu plus amicale au bout d'un moment. Et donc on s'est donné des nouvelles et tout ça. Et puis il y en a d'autres pour qui ça a été bizarre. Par exemple, j'ai eu un échange avec une collègue qui me dit, bah oui, mais c'est vrai qu'on n'a même pas fait de pot de départ alors que ça faisait 10 ans que t'étais avec nous, et on a eu l'impression que t'étais partie sans te retourner et qu'en gros t'étais un peu fâchée, quoi. Et moi je me suis dit, mais pas du tout. Et donc c'est là que je me suis rendu compte du décalage qu'il y avait et aussi du choc que ça avait été dans ma vie et dans l'équipe de se dire, bah voilà, tu bosses avec quelqu'un pendant un certain nombre d'années, t'es managé, tu t'entames des choses, tu te mets sur un chemin, la personne part, elle revient pas, et c'est vrai qu'il n'y a pas de célébration. Tu sais pas s'il faut célébrer ou être triste, enfin, ou si c'est une sorte de deuil professionnel à faire. Donc j'ai eu des discussions où on a partagé notre vécu, mais tu vois, on n'a pas purgé le truc parce que t'es plus dans la même équipe, tu fais pas une rétro, à la rigueur, tu te retrouves un soir, tu vas boire un coup, manger un morceau, et puis tu te partages ce qui s'est passé dans ta vie ces derniers mois, années. Mais c'est vrai que c'est pas une période qui a été accompagnée, que moi j'ai pas pu accompagner parce que c'était assez soudain. Avec du recul, je pense que j'aurais dû faire une passation de management beaucoup plus tôt, parce qu'en fait tu sais pas si ta compagne va accoucher 1 mois avant, 2 semaines avant, donc tu sais pas à partir de quel moment tu vas plus être là. Et donc moi je m'étais dit, je sors des projets, des responsabilités que j'ai le plus tôt possible pour faire en sorte que 1 mois avant, en gros, je sois plus bloquante. Mais c'est vrai que cette relation de management, je pense, ça a été dur, mais je pense qu'il faut le faire plus tôt pour pas que ce soit vécu comme une sorte de rupture et que ce soit une transition qui soit douce où tu te dis, ben je vais plus être votre manager. Même si je suis encore là, ça va être quelqu'un d'autre qui va vous manager pendant les 2-3 derniers mois qui me restent dans l'équipe. Et comme ça, le jour, quitte à ce que je m'ennuie le dernier mois, en fait. Mais là, je pense que ça a été un peu On a gardé le feu allumé un peu trop longtemps, même si on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait. C'est dur, je trouve, de démanager, sachant que t'es pas encore confronté au besoin de démanager.
Donc là, si tu devais faire autrement, concrètement, ouais. Parce que c'est ce que je comprends, hein, que t'aurais pu faire un peu autrement pour que, pour que la rupture soit moins brutale, c'est ça ?
Ouais, carrément. Et je pense que c'est une sorte de plan de transition, tu vois. Tu te dis, bah, si je sais que dans... Mais comme c'est comme une démission, en fait. Si je sais qu'à telle période je m'en vais, bah, 3 mois avant, je fais en sorte de plus être utile. Et que les 3 mois qui me restent, ou les 2 mois, enfin, peu importe de ce qui est décidé avec la boîte, mais je vienne en bonus, en sage, entre guillemets, comme rôle sur des projets, mais je sois plus au cœur des trucs, quoi.
Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire, à ton avis?
Bah, on l'a préparé, franchement, on en a discuté avec mon manager à l'époque, où c'était un peu le rôle, mais ça a été très précipité parce que, elle est revenue aussi de congé mat parce que je pense que il y a des gens pour qui ça a été enfin on a eu c'était dur de réaliser enfin vu qu'on n'était pas confronté à l'immédiateté de la situation. Tu sais, tu te dis toujours bon, on a le temps, on verra ça et puis tu continues à faire tes O3, à faire tes trucs. Donc je pense qu'on a et puis je pense que moi j'ai dû, enfin tu vois avec à nouveau une prise de recul, je pense que moi j'ai dû avoir du mal à le faire parce que c'était important pour moi de manager ces gens jusqu'au bout, mais c'était peut-être pas un cadeau, en fait.
Alors, je voudrais revenir justement sur... tu dis que c'était pas un cadeau, et sur le terme de dégâts, tu dis que finalement, si t'avais pas su reconnaître cette perte d'envie et de motivation, ça aurait pu générer des dégâts. Tu l'as dit à 2 reprises, je crois, pendant nos échanges. Quels sont ces dégâts auxquels tu penses? C'était quoi les risques? Est-ce que tu continues à manager? Finalement, là, j'ai envie de te dire, le congé mat est super bien tombé.
Ouais, il est hyper bien tombé, la vie est bien faite.
Si tu avais poursuivi sans envie, ce qui à mon avis n'aurait pas été le cas parce que tu as eu conscience de
ça. Oui, je pense que.
C'est quoi les dégâts?
Les dégâts, c'est pareil, c'est à nouveau, c'est un gros mot, sachant qu'on n'est pas sur un métier où on sauve des vies et tout ça, mais c'est casser une sorte de relation manager-manager et une responsabilité. Enfin, la beauté du rôle qu'on met chez Octo, du coup, l'a dégradé auprès de quelqu'un qui n'a pas demandé ça, tu vois. Qui est venu te voir en disant, j'aimerais bien que tu me manages parce que on est venu me parler, tu fais ci, tu fais ça. Enfin, moi, ça m'intéresse. Du coup, j'ai bien envie de tester. Donc, tu as une sorte de redevabilité. Et puis, tu vas pas jusqu'au bout du deal. Et ça, pour moi, tu vois, c'est pas ce que j'ai conclu dans ce contrat qui n'en est pas un, mais c'est une sorte de... C'est quand même un contrat que tu signes, entre guillemets, avec ton manager.
J'entends vraiment cette idée de contrat de confiance avec tes managers.
C'est un contrat de confiance.
Et cette peur, cette peur de les décevoir, en fait, et de ne pas être à la hauteur de ce contrat que tu as signé, et qui, pour toi, on le sent...
Et parce que pour moi, c'est hyper important. Tu vois, je ne pourrais pas être managé par un mauvais manager pendant trop longtemps. Enfin, c'est un rôle qui est tellement important pour moi. Mais on en parlait dans la préparation. C'est comme en tant qu'individu aller voir un bon psy. Tu vois, c'est aussi bien quand ça va bien que quand ça va pas bien. Enfin, en fait, c'est un devoir envers soi-même pour que tu vois. Je parlais d'hygiène de vie pour avoir les idées au clair, pour avoir les 2 pieds dans les bonnes chaussures et aussi bien être un bon citoyen qu'un bon manager que un bon conjointe, enfin, pour moi, c'est assez essentiel, quoi.
Donc là, si je reprends le fil de l'histoire, donc tu sens que tu perds en motivation et que tu n'as plus envie de manager, tu n'as plus envie de faire tes entretiens, tu n'as plus envie d'écouter, alors c'est peut-être un peu caricatural, mais en tout cas, voilà, tu n'as plus envie d'écouter tes collaborateurs. C'est quoi la suite de l'histoire? Donc là, tu pars en congé mat, mais comment tu vis déjà cette perte de motivation?
Sur le moment... Je l'ai pas mal vécu parce que du coup j'étais en break assez loin du boulot, mais je me disais juste je veux plus manager, j'ai plus envie de manager et du coup c'est très bien parce que le rôle que je prends dont le job principal c'est d'aller se mettre au cœur des activités internes de la boîte et de se connecter aux équipes internes, la finance, la DSI, les services généraux, la com, les RH et ainsi de suite. L'idée, c'est de pas avoir d'équipe, mais que tout le monde soit son équipe. Mais du coup, je démarrais ce job en me disant, je n'ai pas de management. Et en fait, c'est pour ça que je parle d'alignement des planètes, c'est que c'était parfait. Je reprenais en douceur, sans management, avec un périmètre à défricher qui est déjà inconnu pour moi, donc heureusement que je dois pas le défricher pour d'autres gens. Et en même temps, tu vois, la semaine avant de reprendre, j'ai pleuré comme pas possible en me disant « j'ai pas envie, mais comme la rentrée scolaire pour un enfant ». Mais je pense que j'avais peur, et parce qu'il y avait personne qui m'attendait. Et ça, c'était particulier, tu vois, et c'est là que j'ai senti ce vide de, en fait, quand tu manages, t'as une équipe autour de toi, les gens t'attendent, tu vas revenir, je sais pas, t'auras des ballons à ta chaise, un peu le cliché des gens qui reviennent. Moi, je redémarrais en remote, sur ce lundi, et puis, j'avais pas de réunion, j'avais rien, en fait. J'avais un périmètre à défricher, j'avais ma chère d'homme, quand même, qui m'attendait de pied ferme, et donc je savais que j'avais une montagne de boulot et que j'avais des gros challenges qui allaient me plaire. Enfin, je savais que j'avais envie de prendre ce job et que j'étais attendue sur ce job, mais j'avais pas d'équipe qui m'attendait, quoi. Et donc là, tu te sens un peu seule quand même.
Donc là, j'entends une certaine ambiguïté dans
ouais,
ce que tu ressens, c'est-à-dire à la fois t'es soulagée d'avoir personne ouais. parce que bah t'as pas envie à ce moment-là de manager une équipe. Aussi parce que tu dois mettre ton énergie ailleurs, hein, c'est ce que tu nous avais expliqué, en l'occurrence dans ta ouais. famille. Mais en même temps, tu as l'impression de ne pas être attendu. Alors moi, je voulais te poser une question plus spécifiquement par rapport au fait que tu arrêtes de manager à ce moment-là, ce qui pourrait être vécu par certains comme le fait d'être rétrogradé.
Ouais.
Comment toi, tu l'as vécu? Quelle image ça t'a renvoyé
Je ne sais pas si je me mens. Je sais que j'ai vécu cette situation un peu en parallèle, après quelqu'un d'autre. De proche de moi qui l'a vécu, où tu manages tes premiers managers, des profils c'était des profils un peu plus juniors à cette époque. Ensuite, tu manages des managers et je l'ai vécu comme, ben en fait, je veux plus manager. Ou alors, je manage une personne et je manage un manager, mais je suis plus dans un râteau de management avec 6-7 personnes. Et donc, j'ai essayé de le vivre avec beaucoup de sagesse, mais je ne sais pas si je me mens à moi-même, on verra plus tard, avec de la sagesse de me dire, bah, c'est peut-être ça aussi, le boulot d'un manager, c'est de faire son job à un moment, de le faire du mieux possible, mais de se retirer à un moment où c'est plus le bon moment pour soi, et de revenir ensuite, enfin, tu vois, de faire un peu comme une vague en fonction de ta motivation, ton énergie, ton envie. Parce que tu sais ce que... Tu as fait tes preuves en tant que manager, auprès de tes managers, auprès de l'organisation. Tu sais que tu es capable de le faire. Et du coup, tu sais quand tu es plus capable de le faire aussi. Et donc, je trouve que... Alors, j'essaye de le dire avec beaucoup d'humilité aussi, mais je suis assez fière de ce qui s'est passé et je suis fière qu'on m'ait permis de le faire. Je suis fière d'être dans une... Je suis heureuse d'être dans une boîte qui valorise ça aussi et qui, comme je te le disais quand on préparait l'épisode, qui te dit pas bon bah du coup t'es rétrogradé et puis tu perds tant de salaire et puis tu sors de la communauté des managers et puis si et ça. En fait non, c'est accueilli comme un non événement quoi.
Oui, ce que j'entends c'est que si tu l'as bien vécu, c'est non seulement parce que t'étais hyper réaliste sur tes envies, ce dont t'avais besoin, sur le fait que t'avais super bien aussi réussi ton job de manager et que là, tu pouvais te permettre de passer à autre chose, mais t'es aussi dans une culture d'entreprise qui
valorise
qui encourage
ça.
C'est important. Ouais.
Bah alors, je sais pas si on l'encourage, mais en tout cas, on cultive l'envie de manager. On parle quand même beaucoup de motivation avec son manager toutes les semaines, enfin, de comment tu te sens dans l'organisation, dans l'équipe, dans la boîte et ainsi de suite. On laisse toujours cette porte ouverte de pouvoir dire quand t'es pas dans cette bonne passe et que ce soit ok et de se dire ok tu peux l'être pendant un certain temps et ensuite si on a besoin que tu reviennes qu'est-ce qu'on met en place, comment on fait pour que t'aies envie de revenir sur soit ce rôle-là, soit dans l'équipe, soit sur tel projet. Donc c'est, et puis moi je suis un pur produit Octo, au bout de 11 ans de boîte, c'est ma première boîte, ma première vraie expérience. Donc, je pense que je suis vraiment teintée de toutes ces pratiques. Et du coup, c'est très important aussi pour moi de les cultiver, de les transmettre, de rendre compte que ça existe, en fait, et que c'est OK.
Alors, justement, Charlotte, ça me fait te poser cette question. Tu parlais tout à l'heure de codev et de peer managing, et là tu parles de la culture Octo qui est très forte. Est-ce que tu as des managers autour de toi qui se sont peut-être rendus compte un peu de ta lassitude, qui ont tenté de te le dire ou te faire le feedback, tirer la sonnette d'alarme?
Je crois pas. Je crois pas parce qu'à ce moment-là, j'étais assez seule. J'étais seule et en même temps, j'étais accompagnée parce que à ce moment-là, quand j'ai senti que ça s'intensifiait et en plus de ça, l'activité au boulot s'intensifiait. Et comme je disais, on a vécu 2-3 trucs qui ont été assez hardcore à accompagner pour une équipe. Les managers de l'équipe sont venus un peu me renforcer à travers des sortes de copiles de l'équipe ou des je sais plus comment on appelait ça, mais on essayait de se voir au moins une fois par mois ou toutes les 2 semaines pour partager notre quotidien, les difficultés qu'on pouvait avoir. Et moi, ça me permettait d'avoir une visibilité sur ce qui se passait dans toute l'équipe. Ça me permettait d'en transmettre aussi au manager pour qu'ensuite il puisse transmettre à tout le monde. Je pense qu'à ce moment-là, ça m'a aidée. Mais moi, j'étais managée à cette époque par le CEO, Ludovic, le CEO à l'époque de la boîte. Et on était dans un rapport où quand même, moi qui suis assez ouverte pour parler de ce que je ressens, de comment je me sens, là, c'était vraiment 30 minutes pour faire un flash sur l'équipe, sur l'activité, que lui, il me partage aussi soit des orientations stratégiques, soit des infos importantes à transmettre. Enfin, en gros, c'était vraiment plus sur la partie stratégique du management, plus que sur le côté ressenti, émotion. Et en fait, je pense que c'est ça qui est dur aussi au bout d'un moment quand on devient manager de manager et qu'on évolue dans l'entreprise et on s'en rend pas forcément compte tant qu'on n'y est pas, c'est qu'on se sent seul à certains moments et qu'il n'y a plus forcément quelqu'un pour venir nous demander « Mais et toi, comment tu vas ?» Et ça fait partie du truc parce que on passe sa vie, nous, à demander aux autres comment tu vas, comment tu te sens, qu'est-ce que je peux faire pour toi, et ainsi de suite. Mais c'est important de continuer à se le demander à soi-même. Ou alors, comme je parlais de Codev, de se connecter à d'autres managers dans les mêmes situations, de managers d'équipe et de personnes, pour se dire « Ouais, c'est chaud en ce moment, toi, comment tu gères le truc ?» Et de sortir prendre l'air, tu vois, soit autour d'un déjeuner, soit d'aller discuter sous une autre forme, dans un autre cadre avec des pairs.
Ce que je comprends, c'est que tu l'as pas fait à ce moment-là, mais peut-être parce que, comme tu le disais tout à l'heure, tu n'en avais peut-être pas forcément conscience sur l'instant que c'était ça qui se passait. Et c'est le fait d'aller en congé maternité qui t'a permis de faire cette introspection. Mais avec le recul, si c'était à refaire, est-ce que
Je le ferais. En fait, je pense que ça m'aurait aidé. Mais en fait, la situation, elle a été éclair sur 6-8 mois. Tu vois, ce que je vous raconte, ce dont je parle là, ça a été 6-8 mois assez intense, avec un pic d'activité vraiment. On était sur des gros événements, on avait un pipe de publications énorme. Enfin, on était à fond la caisse sur les projets, à fond la caisse sur des problématiques d'équipe aussi, de personnes à accompagner. Enfin, il y avait un peu tout qui se bousculait. Et donc, je pense qu'on a été plusieurs à peut-être pas relever la tête, mais en étant conscient qu'on relevait pas la tête. Et il y avait vraiment une ligne d'arrivée pour moi. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette ligne d'arrivée, je me fais confiance, je pense qu'à un moment, j'aurais fait ce pas de côté en me disant, bon, va en parler, connecte-toi, et peut-être que, vu qu'il y a d'autres gens probablement dans ta situation, ça va être utile, tu vois, de mettre en place des sortes de... Et puis, c'est des choses qu'on a déjà faites chez Octo, des cliniques du management. Le terme est un peu barbare aussi, mais c'est hyper chouette. Tu te retrouves entre managers, tu partages tes problématiques, tu discutes. Et t'es pas forcément orienté solution non plus.
Donc, je continue l'histoire. Donc,
oui.
Là, tu pars en congé mat, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et puis quand tu reprends, t'es sur une activité autre, donc en l'occurrence RSE, donc ton nouveau job. Et là, t'as personne à manager, ce qui te pose pas fondamentalement de problème, en dehors du fait de te dire qui m'attend. Comment tu vis ce retour sans personne à manager, du coup? Et ensuite, comment tu retrouves peut-être l'envie de manager? Comment tu sens que c'est le bon moment pour toi de reprendre une activité de manager?
Je le vis assez bien, ce retour, si je mets de côté le mélange d'émotions, de reprise de travail, quand tu as vécu quelque chose d'intense personnellement. Je le vis bien parce que je prends un job où je me dis, mais en fait, j'avais fait le tour aussi de mon bocal, tu vois, 10 ans dans mon job. C'était ok. Et c'était ok pour tout le monde en fait. Et puis ça a fait de la place en plus de ça. Donc c'est aussi le devoir du manager à un moment de se dire bon, il y a d'autres personnes qui ont envie d'évoluer. Quand tu sors quelqu'un d'un système, d'un commun accord, enfin tu vois que ça venait de moi là en l'occurrence, c'est aussi hyper chouette de regarder dans le rétro et de se dire mais trop cool en fait, ça a laissé de la place pour ces trois personnes à faire ces activités. Ça change des pratiques, ça fait du bien. Enfin moi j'étais hyper heureuse parce que je me suis dit ça a fait du bien à tout le monde. Et c'était mais vraiment pile poil le bon moment. Quoi. Il n'y avait pas, je pense, un autre meilleur moment pour le faire. Alors que c'est dur, t'es 10 ans en poste, d'aller se dire bon bah je m'arrache de là, c'est un peu dur. Donc je le vis bien. Je vis bien de plus manager parce que j'ai beaucoup de temps pour éplucher des sujets, les décortiquer, apprendre. Parce que je prends un job où j'ai pas de diplôme sur tout ce qui va être environnemental ou social, sur les normes, sur les régulations, sur comment fonctionne d'un point de vue opération une entreprise. Donc j'ai plein de temps pour aller rencontrer des gens, ouvrir des bouquins, regarder des confs, apprendre des choses. Quoi. Ça me nourrit, je trouve un nouveau sens à ma carrière. Je suis dans un truc où je suis très fière, où le job est important pour Octo, pour les Octos, enfin. Vraiment eu un moment hyper chouette et quand même assez rapidement, au bout de 6 mois, je suis très contente parce qu'une ancienne de l'équipe com m'avait gardé dans le radar en me disant « Je sais qu'un jour tu vas prendre ce job et le jour où tu le prends, je veux que tu penses à moi. » Et du coup, je sens que j'ai besoin quand même de plus de bras parce que ça y est, j'ai fait le tour du propriétaire, du terrain et je sens que sur tel sujet et tel sujet, je vais avoir besoin de renfort et que je pourrai pas tout faire. Donc je récupère quelqu'un de mon ancienne équipe que j'avais déjà managé, qui pour elle ça fait pareil un second souffle, ça met un second souffle dans sa carrière. Et donc c'est des histoires comme ça que j'adore moi qu'on vit chez Octo aussi, de pouvoir faire bouger des plaques et qu'en fait ça le puzzle reprend forme de façon assez magique. Et du coup je me remets à manager avec quelqu'un que j'ai managé sur les dernières années et qui a en même temps vécu toute ma transition. Et donc c'est idéal parce que je remanage en disant bon je sais plus trop faire, ça va revenir, c'est ok et en fait on va le faire ensemble. Donc c'est vraiment un démarrage en douceur et avec une capacité d'écoute. Enfin vraiment ça a été bénéfique des deux côtés cette première relation de ce renouveau de management. Ensuite je manage à nouveau une seconde personne assez rapidement. Je prends Zachary en alternance. Hyper chouette, pareil, je le vis bien parce que c'est des rencontres humaines avant tout, et où on veut bosser sur ce sujet, on sait qu'il est important, et donc on a cette envie, tu vois, de bien faire les choses, et donc on est une petite équipe qui est passionnée de cette cause, de la responsabilité d'une entreprise, tu vois, on a l'impression, et en même temps, on fait des grandes choses, et c'est dans un climat de confiance où, tu vois, on n'est pas débordé par la partie administrative que peut représenter le management à certains moments. Et il y a une relation très équilibrée de manager-manager.
C'est-à-dire une relation équilibrée? Qu'est-ce que tu appelles une relation équilibrée?
Bah, on est plus sur un rapport où moi, je lead ce collectif. J'appelle un collectif parce qu'en fait, c'est pas vraiment notre équipe. Notre équipe, elle est composée de personnes, d'octos qui sont aussi dans d'autres équipes. Là, on est vraiment un collectif qui lead les sujets sustainable en interne et qui, du coup, dont le rôle va être de se connecter à des gens déjà en place. Donc, je nous vois vraiment comme un collectif, sachant que je les manage, on passe 30 minutes, une heure ensemble et plus si besoin sur la partie aussi bien opérationnelle que vraiment plutôt management coach. Mais tu vois, je me sens plus comme un lead d'équipe qui fait du coaching pour faire en sorte que ces personnes développent les bonnes compétences pour atteindre les objectifs, que les objectifs que je fixe soient clairs, mais qu'on les fixe ensemble, parce qu'en fait, je suis un peu plus légitime qu'eux sur le job, mais pas non plus, j'ai pas 10 ans de carrière sur le boulot, quoi. Et donc j'ai là, pas les trois plus grands diplômes qui existent sur le marché.
Donc, j'entends que c'est une reprise du management en douceur. Ouais. Et après, je rentre aussi que c'est une posture un peu différente de ce que tu as vécu avant, quand tu parles de management plus équilibré, de collectif, de lead. Mais cette posture différente que tu as par rapport à avant, c'est lié à quoi? Enfin, je veux dire, hiérarchiquement, ils ne te sont pas rattachés ou c'est...
Si, ils le sont. Mais j'étais déjà comme pareil. Ça, je pense. Je pense que c'était déjà le style que j'avais à la com, et qui vient de plusieurs petits complexes, je pense. Le premier, c'est que j'ai toujours été assez jeune dans l'organisation par rapport même à des gens que je manageais. Et du coup, c'est pas un acquis, tu vois, de séniorité. C'est un acquis de séniorité, d'expertise. Mais j'ai toujours ressenti le besoin de prouver que j'en étais capable et que les gens pouvaient me faire confiance et que, enfin, ça a jamais été un acquis. Je me dis, tu peux du jour au lendemain, il y a plus personne qui veut que tu le manages, donc en fait, faut donner envie, quoi. Donc je le vivais déjà comme ça, un peu à la com, mais je me suis fait emporter dans ce tourbillon. Cette dernière ligne droite, là, il y a moins de pression, il y a moins de personnes à manager aussi, donc j'ai plus le temps de faire les choses comme j'ai envie de les faire, j'ai plus le temps de recultiver cette capacité d'écoute. Je pense que c'est ça qui change pas mal.
Alors justement, tu parles de recultiver. Aujourd'hui, après, bah voilà, toute cette expérience, le fait d'avoir managé plus de monde, moins de monde, baisse d'énergie à un moment donné. Qu'est-ce que tu fais peut-être différemment? Qu'est-ce que tu vas faire différemment aujourd'hui, justement, pour peut-être maintenir cette énergie?
En fait, c'est vrai que je n'ai pas trop expliqué comment je m'en étais rendu compte. Du coup, pour la première fois de ma vie, non, pas vraiment, mais j'ai officiellement changé de manager en changeant de job. Donc, j'ai découvert un autre style aussi. Et surtout, cette personne qui me manage en ce moment prend ce job et me dit il faudra qu'on discute aussi de tes objectifs et du coup je fais un grand sourire, je rigole et je lui dis en fait l'objectif principal là ça va être ma motivation parce que je sens que je fais pas les choses comme je pourrais les faire. C'est pas la Charlotte habituelle, j'ai pas la même énergie dans les autres trois, j'ai pas la même énergie dans le boulot, j'ai un boulot où j'ai vraiment beaucoup de sens et beaucoup de challenge, mais je lui dis J'ai traversé une phase de 2-3 semaines où j'ai eu besoin de débrancher du boulot. J'avais plus envie. Au-delà de manager, j'avais plus envie j'ai vécu un truc un peu chelou qu'on pourrait appeler bore-out, mais qu'on peut connoter aussi comme la personne s'ennuie, donc elle a pas assez de travail. Alors que moi, j'avais une quantité de travail quand même assez phénoménale, mais j'avais pas trouvé le sens. Et en fait, quand il m'a posé cette question, il faudra qu'on travaille sur tes objectifs, est-ce que t'as déjà des trucs en tête, et que je lui réponds hyper spontanément en rigolant, c'est la motivation, je me rends compte que j'ai bouclé une boucle et qu'en fait en dernière étape de ce que je venais de vivre, c'était une baisse de motivation qui se répercute sur mon rôle de manager. Je manageais ces deux personnes avec de l'envie, mais j'étais en train de m'accrocher à avoir envie, j'étais en train de m'accrocher à me dire avant tu faisais ça donc faut le faire, mais j'avais pas retrouvé ce sens, quoi, en gros. Et quand il m'a posé cette question, je me suis dit, mais je leur ai pas posé la question de leurs objectifs. Et donc, c'est pas bien, tu vois, Charlotte. Il y a un gros truc que t'as occulté de ton rôle de manager, c'est que vu que toi, t'as pas d'objectifs, eux, ils en ont peut-être pas. Enfin, ils en ont peut-être à court terme. Et en fait, c'est ça la clé. C'est pas d'avoir un objectif, genre abattre tant de quantité de travail, mais tu veux accomplir quoi cette année? Aussi bien personnellement que professionnellement, quoi. Et donc j'ai réaligné toutes les barres de mon être en me disant tu te regroupes Charlotte et j'ai remis le pied à l'étrier, je sais comment je fonctionne, j'ai remis des récurrences avec l'équipe, faire en sorte que on se voit régulièrement pendant le mois en faisant des trucs autres que bosser, en faisant pareil ce pas de côté, faire connaissance, en faisant des kick-off en début de semaine pour se dire c'est quoi nos prios de la semaine. En remettant de l'énergie dans mon management d'équipe et mon management humain, quoi. Et donc j'ai mis tout ça en place, un peu ma recette que j'avais sur les dernières années. Ça m'a remotivé. J'ai senti en face, ils m'ont regardé en me disant mais c'est trop cool. On a plein de taf, mais en fait c'est trop cool parce qu'on sait dans quelle direction on va et puis on a des réunions ensemble où en fait tu nous briefes sur ce que tu fais aussi, sur ce que les autres font, sur ce qui se passe dans la boîte. Enfin, et puis tu vois là, ça fait 2-3 mois que c'est hyper chouette, quoi. Et c'est ça qui manquait, c'est que j'avais pas, je m'étais pas réalignée, quoi.
Donc quand tu dis c'est ça qui manquait, en fait moi l'impression que ça me donne c'est en fait si tu manages faut que tu ailles à fond. Et ouais. Là t'as repris du management mais t'y allais pas forcément à fond, c'est-à-dire avec tous les rituels que ça implique.
Tout à fait. Notamment.
Et donc, du coup, ce qui, toi, va te donner de l'énergie en tant que manager, c'est d'être à fond dans ton
travail. C'est d'être à fond, ouais, et puis surtout, c'est valorisant, mais au-delà du côté valorisant, c'est que je me suis dit, Zachary, il a été trop content, quoi. Ça s'est senti, en fait. Et c'est le fait que ça se sente, je me suis dit, forcément, ça devait sentir que c'était pas là. Ils le savaient pas parce que ils ont pas eu peut-être l'expérience avant et tout ça, mais c'est pour ça que je parlais de se manager soi-même, c'est que je me suis managé moi-même, je me suis dit ça va pas, tu te reprends sur aussi bien tes rituels que tes outils de travail, que ton rythme, que les discussions que tu vas avoir avec ton propre manager, tu te manages, parce que si tu veux manager, tu te manages, en fait.
Ça veut dire quoi, tu te manages?
Quand je dis tu te manages, c'est tu te regroupes, c'est tu t'occupes de toi, tu fais en sorte d'être au clair sur tes envies, tes perspectives, tes objectifs, sur ce que tu es capable de donner, de pas donner. Si tu te dis que tu es capable de donner un truc, tu fais en sorte de le donner et de le donner de la bonne façon. Tu vois, si tu dis que tu as envie de manager et que tu manages ces personnes, tu as du temps dans ton agenda, tu mets de l'énergie, tu es en écoute, tu te focuses, quoi, tu te concentres, tu redonnes de l'importance au rôle, parce qu'il est important, ce rôle, en fait. C'est pas juste un collectif où c'est bien, tu passes 30 minutes avec les uns et les autres pour s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils ont pas trop de questions et tout ça. C'est stratégique, en fait. T'as une équipe à amener dans une direction, tu te poses la question, c'est quoi la direction, tu la partages à tout le monde et puis on y va ensemble. T'es lead d'équipe, quoi.
Ok, donc finalement, c'est ce qui te donne de l'énergie aujourd'hui, c'est vraiment de manager tel que tu aimes finalement manager, c'est-à-dire en imitant ton cœur et ton temps et ton énergie.
Et des tripes, une importance, en fait, et tout le monde n'a pas forcément la même, mais c'est ce que tu dis, c'est de manager comme j'aime manager, en mettant toute l'énergie que je peux avoir, en étant consciente qu'il y a des baisses, tu vois, vu que je l'ai vécu, et que je l'ai vécu avec ces 5 mois où je débranche, mais aussi ces 2-3 semaines dont on a peu parlé, mais où en fait... j'ai pas envie d'aller travailler, bon, je suis malade en plus, j'accumule des trucs, mais où je me dis, il se passe un truc, en fait, t'es en petite forme, et c'est lié, ces questionnements, c'est lié cette énergie que t'as pas, tu tombes malade, tu chopes des trucs chelous, tu si, tu ça, t'as le bourdon, et en fait, c'est hyper lié, et je me suis dit, mais je fais pas les choses à moitié, et peut-être que je les faisais à moitié en me disant que je pouvais aussi ralentir la cadence et tout. Mais en fait, non, c'est une question d'énergie. C'est pas une question de se blinder de réunions, de se blinder d'O3, de trucs comme ça. C'est pas ça. C'est vraiment une question d'énergie à mettre dans le geste.
Pour conclure, Charlotte, finalement, quels ont été les bénéfices de cette pause? Quand je parle de pause, je parle de ta pause congé mat, mais je parle aussi de ta pause dans le management. Quels ont été les bénéfices de cette pause, les prises de conscience que tu as pu avoir?
Je pense que le grand bénéfice, c'est de se dire que je le savais déjà un peu, mais t'es manager, c'est une casquette que tu peux prendre en plus. Une fois que tu l'as, tu sais la porter. Et donc, ça sert à rien de rester accroché à la casquette à un moment en se disant, même va bien, je veux pas la perdre. C'est un peu comme une danse. Et il y a un rythme. Et quand tu suis pas le rythme, tu peux faire, tu sors, tu vois, de la piste, et puis tu peux revenir. Faut pas chercher à s'accrocher coûte que coûte si c'est pour moins bien faire les choses et du coup s'abîmer. C'est ça que je retiendrai. Et le conseil que j'ai pour moi-même plus tard, tu vois, et même actuellement, c'est vraiment de, et ça vaut pour tous les domaines de vie, de rester connecté à son envie, de ce qui nous motive à devenir et à rester manager. Parce qu'on peut avoir envie de rester manager tout le temps, mais ça se travaille, en fait. Du coup, c'est pas un acquis. Pas juste une casquette à porter, quoi.
Charlotte,
oui.
Merci beaucoup pour tout ce partage.
Avec grand plaisir.
Je vais tenter de récapituler ce que tu nous as dit. Donc, je vais parler sous ton contrôle. Évidemment, si je dis une bêtise, tu pourras hurler, crier, et surtout corriger et compléter ce que je vais conclure. Moi, j'ai entendu. Donc, déjà, tu nous as parlé de tes 2 capacités. De le côté cérébral et le côté émotion qui forment un tout et qui te permettent à la fois de manager et de te manager en même temps. Et finalement, avec ton parcours, ton partage, autour de ce thème de la motivation, tu nous invites en fait à nous poser plusieurs questions. Avons-nous vraiment envie de manager? Est-ce qu'on prend le temps de s'occuper de soi? Et c'est rigolo, au tout début, tu as parlé du fait que, comme beaucoup de personnes, tu avais bassiné, pour reprendre tes mots, tu avais bassiné ton manager pour le devenir. Et c'est vrai qu'on l'entend souvent, ça, dans les entreprises. Ouais. Pour progresser, il n'y a que la voie du management et c'est ce que je vais demander pour avoir ma promo. Mais sans avoir cette conscience et de s'être posé ces deux questions que tu nous as invitées à nous poser au début, que je reprends. Avons-nous vraiment envie de manager? Est-ce qu'on prend le temps de s'occuper de soi? Et ça, moi, c'est vraiment ce que je retiens dans tout ce que tu nous as raconté. L'envie t'a quitté un moment, progressivement. Ça s'est traduit par ce sentiment mi-figue, mi-raisin. Est-ce que j'en fais assez? La culpabilité qui a commencé à t'envahir parce que tu te rendais compte que tu avais une écoute qui était réduite et tu n'avais pas envie de devenir ce manager au rabais qui fait les choses parce qu'elle doit les faire et qui finalement ne s'éclate plus dans ce qu'elle fait. Et c'est là que tu as eu la possibilité de débrancher la prise, j'ai envie de dire, au bon moment, avec cette pause qui est arrivée dans ta vie personnelle et qui, du coup, t'a fait partir quelques mois du bureau. Et tu as eu le temps de faire cette prise de recul, ce travail de pas de côté et d'introspection pour vraiment réaliser que ce rôle, il était très important pour toi et que, même s'il y avait un peu d'ambiguïté, un peu de tiraillement pour toi de te dire « je vais revenir, pas forcément dans un rôle de manager, on m'attend pas, on n'a pas célébré, est-ce qu'on célèbre ou pas ?» finalement, ça t'a permis de te reposer les bonnes questions et de rebondir avec le fait d'être nourri par ce nouveau job qui t'a permis d'apprendre des nouvelles choses autour de tout ce qui est donc RSE et avec cet élément déclencheur avec ton manager actuel, Alban, c'est ça?
Oui.
Qui t'a finalement, en te posant une question sur ton objectif de l'année, de réaliser que tu avais encore une étape, une barrière à refaire tomber et qui était de, faut que la motivation, elle va aussi passer par le fait que je vais inviter mon équipe à poser sa vision pour l'année, ses objectifs pour l'année et à remettre en place mes recettes de manager pour motiver mon équipe.
Complètement, s'appliquer à soi-même ce qu'on propose d'appliquer aux autres, quoi.
Exactement. Dans ce que tu as dit, en fait, au travers de tout cet échange sur la motivation, finalement, tu es venu nous parler de motivation intrinsèque. Ça, c'est un thème qu'on aborde souvent, Sandy et moi, en coaching de groupe, de collectif de managers ou dans les formations qu'on organise pour les managers. Les leviers de motivation intrinsèque, il y en a quatre. Il y a quatre grandes familles. Et il y en a deux, finalement, que tu nous as dit à travers ton interview. C'est comment on s'appuie sur ses forces. Et moi, j'ai entendu que tu avais cette force d'écoute, de curiosité, d'envie d'apprentissage pour toi et pour ceux de ton équipe. Et puis, un deuxième levier de motivation intrinsèque, c'est le sens que tu donnes à ta vie, le sens que tu donnes à ton travail.
Tout à fait. C'est très bien résumé.
Parfait. Je me permets, au fil de l'interview, tu as partagé plein d'outils concrets et on aime bien les choses concrètes et pragmatiques pour nos auditeurs parce que ça leur permet de les réemployer, les utiliser, les exploiter pour eux dans leur management ou pour les suggérer à leur manager, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément managers mais qui ont envie d'aider leur manager. Tu as parlé donc des O3 chez Octo, c'est le nom que vous donnez au one-to-one, donc aux petites réunions en binôme avec les personnes qu'on manage. Et tu as parlé de toi des one-to-one en marchant. Donc, oui. Invitation que tu as pour peut-être les autres managers, allez marcher, prenez l'air avec vos équipes en individuel pour avoir des moments d'échange qui vont être fructueux. Tu as parlé du concept du crapaud. Donc, commence déjà par les choses désagréables comme ça, une fois que c'est fait.
Tout à fait.
Tu nous as parlé de codev, co-développement, donc sont des groupes, pas de parole, mais des groupes où on va s'entraider, on développe l'intelligence collective pour, sur un problème donné, apporter d'autres possibilités de résolution de problème à une personne qui arrive avec sa problématique. Tu as parlé de plan de transition. Donc, quand on part, tu aurais dû faire un plan de transition peut-être plus établi. Et ça, je pense que c'est vrai pour les congés, congés maternité, par exemple.
Mais les absences, oui, ouais, c'est ça.
Voilà, exact, les absences, ou quand on sait qu'on décide de quitter une boîte ou de changer de job dans la boîte, travailler sur un plan de transition qui va accompagner l'équipe et le nouveau manager. Voilà. Tu as parlé de clinique du management. J'ai beaucoup aimé le fait, j'imagine, hein, en deux mots, c'est quoi ? C'est vous vous réunissez en tant que manager pour parler vraiment de
management. D'un sujet. Oui, c'est ça, d'un sujet qui est souvent en lien du coup avec une situation des managers, une situation de management, quoi. Mm-hmm. Et clinique, c'est l'aspect où on essaye de soigner, quoi,
la situation. Ouais, on essaye de soigner. Bon, bah, invitons tous les managers à faire ça, clinique du management. Et puis, tu as parlé du fait, bah, tout simplement, de fixer des objectifs, qui ne sont pas juste des objectifs à la semaine, mais pour l'année, quand on est manager, dire à ses équipes, bah, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, toi, cette année, quelle est la vision que tu te donnes pour ton année.
Et en fait, l'objectif, ouais. Absolument, c'est, moi j'aime bien le terme ambition. Alors, c'est inspiré des OKR, mais c'est quoi ton ambition cette année? Et c'est, on dit souvent que quelqu'un qui a de l'ambition, c'est pas bien. C'est oh là là, il a les dents qui rayent le parquet ou autre. Mais en fait, c'est hyper chouette d'avoir une ambition. Il faut que ce soit presque inatteignable. C'est ça le but.
Bah écoute, merci d'apporter cette précision. Et du coup, bah tu nous as dit, hein, avec ton équipe, très concrètement, c'est faire connaissance aussi au quotidien. C'est organiser des petits kick-offs en début de chaque semaine pour savoir ce qu'on va faire. Et c'est inviter finalement à des pas de côté régulièrement.
Tout à fait.
Moi, ça me fait dire aussi, comme on a parlé motivation tout le long, la motivation, ça se décrète pas aussi. C'est le fait de se mettre en mouvement. Là, Alban, t'as fait déclencher quelque chose qui t'a fait remettre en mouvement avec ton équipe, et c'est venu nourrir cette motivation.
Oui, absolument.
Et j'ai envie de conclure par ça, la cerise sur le gâteau des outils que tu nous as proposés, que tu proposes à travers ton interview, ben, c'est le temps. S'occuper de soi, prendre le temps de l'introspection et du pas de côté pour réfléchir. Encore une fois, avec cette question, c'est est-ce que j'ai envie de manager ?
Ouais,
et ça, je pense que c'est un superbe outil. Alors, on conclut par notre question habituelle de fin. Si tu avais un conseil à partager avec un manager qui démarre ?
Ça va être... du radotage plus, mais de rester connecté à cette envie. De se demander pourquoi j'en ai envie, qu'est-ce qui fait que j'en ai envie, qu'est-ce qui fait que j'en ai pas envie, de devenir manager, c'est ce que je disais juste avant, quoi, mais c'est de et en fait ça vaut pour tout, et tu parlais de prendre le temps, mais c'est, je trouve ça essentiel. Je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, mais je trouve que c'est hyper important de se poser des questions. Les gens qui me disent mais moi je me pose jamais de questions, je me demande comment ils font.
Voilà. Ouais, et puis, comme tu l'as dit, là tu dis que c'est important de se poser des questions, mais comme tu l'as dit, le management c'est un rôle trop important pour toi.
Ouais.
Et moi, j'ai entendu beaucoup de générosité de ta part pour les autres. Et si on n'a pas cette générosité, c'est peut-être là où il faut se poser des questions. Pourquoi on le fait ?
Peut-être.
Une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur ?
Je pense que j'aurais verbalisé. J'ai beaucoup de fesses. Enfin, je sais quand même pas mal verbaliser, mettre des mots sur les émotions. Et là, je l'ai pas fait. Donc, c'est toujours, si on avait une baguette magique, bah, j'essaierais de le verbaliser plus tôt, cette notion d'envie, de motivation. Et au moment où je m'en suis rendu compte, je l'ai pas dit. Donc, quand on s'en rend pas compte, c'est absolument normal, du coup, de pas se le dire, mais je l'ai pas dit à mes managers ni à mon manager. Je l'ai dit au moment, last minute, tu vois. Bah, en fait, le sujet, ça va être ma motivation. En fait, c'est humain. Et je pense que ça aurait aidé tout le monde, et ça aide peut-être aussi les gens qu'on manage à se dire, bah, moi non plus, tu vois, c'est ok de se dire, si cette personne se dit, si mon manager se dit qu'en ce moment il a pas trop envie, ça veut dire qu'il tolère, il comprend si un jour je lui dis que moi j'ai pas envie. C'est ça qui est important, je pense, c'est de se dire, bah, mon comportement, il a des conséquences aussi sur d'autres, aussi bien dans le pourquoi de ce comportement que le fait de s'autoriser à avoir ce comportement.
Et la dernière question. Une source d'inspiration que tu peux conseiller à nos auditeurs ?
Alors, j'en ai plein.
Tu peux en donner plusieurs.
Il y a un bouquin qui est... alors, c'est les accords Toltec. C'est pas la grande science.
Oh, mais c'est quatre accords Toltec.
Ouais. Moi, on aime, on n'aime pas. Ils m'aident beaucoup à faire la part des choses et à voir les situations de façon radicalement différente. Aussi bien, pareil, dans la vie de tous les jours qu'au boulot. J'ai beaucoup aimé aussi le bouquin d'Isaac Goetz, Liberté. Je suis très branchée livre, hein, donc sortez votre calepin. Liberté et compagnie sur un modèle, sur la notion de confiance, des décisions prises de façon collective, sur le fait de considérer des gens qui travaillent dans une entreprise comme des humains qui sont des adultes et qui sont autonomes et qui du coup sont capables de faire des choses comme tout le monde, quoi. Ce qui est un peu la base pour moi en modèle d'organisation. Je dis pas qu'on est une entreprise libérée parce que je pense que faut être enchaîné pour ensuite être libéré. Et il y a vraiment des boîtes, il en parle dans le bouquin, qui ont vécu cette transition. Je trouve ça assez incroyable comme transformation. Il y a un bouquin que j'adore, que j'ai pas fini, Demandez-vous pourquoi, mais me le dites pas. Et ça s'appelle La vérité sur ce qui nous motive, de Dan Pink, qui est assez chouette aussi, qui parle exactement de tout ça, tu vois, les vraies notions, les vraies motivations au boulot. Et un que j'aime bien, alors je sais pas, je l'aime bien, pas pour le côté boulot, mais le Let My People Go Surfing de Yvan Chouinard, le patron de Patagonia, le fondateur de Patagonia.
Ah oui, on a déjà eu cette référence. Invité.
Donc vous connaissez, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il aborde des choses qu'il aime dans la vie. Il s'est dit que c'était une lettre ouverte à ses collaborateurs et collaboratrices. Et en fait, il savait pas du tout que ça finirait dans les mains de plein de managers, entre autres. Et il parle juste de ce qu'il aime, de ce qu'il anime. Et en fait, je pense que c'est ça qui peut être vraiment une clé dans nos relations au travail. C'est déjà d'être soi, mais être soi, c'est aussi, on vient aussi avec ses passions, avec ses hobbies, avec sa façon de voir le monde, d'habiter le monde. Et ça se répercute forcément sur notre nous en tant que manager. Et je trouve ça difficile, les gens qui cherchent, mais c'est OK, absolument OK. Je serais pas capable de le faire, de dissocier ce qui m'anime dans ma vie en tant que citoyenne Charlotte, de ce que je suis en tant que manager ou en tant que membre d'une équipe, tout simplement. Et je trouve que la richesse, elle se trouve dans ce mélange des deux, quoi. Et je pense que c'est ce qu'il a réussi à transmettre, Yvan Chouinard, dans ce bouquin. Et après, j'ai une source d'inspiration, mais qui est plus un truc d'hygiène de vie, c'est d'aller discuter avec les managers qui nous entourent. On a parlé des codev, on a parlé de la clinique. Mais c'est vraiment d'aller, tu bois un café, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est manager proche de toi, qui est là, tu te dis, toi, tu fais comment tel truc. Et en fait, c'est une veille constante et c'est OK. Et je pense qu'en osant demander comment tu fais à quelqu'un d'autre, cette personne va peut-être se dire, mais c'est vrai que j'ai le droit de demander. En fait, c'est pas parce que je demande une réponse que je suis en train de regarder les corrigés de mon bouquin scolaire, quoi. C'est ça, ça fait partie des responsabilités aussi.
Ben, je te remercie de finir par ça, parce que c'est quelque chose auquel on croit très fortement avec Sandy, d'où le fait d'avoir créé ce podcast, parce qu'on souhaite contribuer au partage et à la discussion entre managers. Et nous, on croit beaucoup à l'entraide et à la solidarité entre managers. Parce que tu l'as dit à un moment donné dans ton interview, on se sent seul parfois dans ce rôle, et il n'y a rien de plus facile finalement que d'aller voir ses collègues, et en même temps c'est très difficile parce que c'est se montrer vulnérable.
Exactement.
Fait tomber cette
mais
barrière.
Ça ne l'est pas.
Ouais, ça ne l'est pas, et quand on fait tomber cette barrière mentale, finalement on se rend compte que d'autres vivent la même chose. Donc allez-y, parlez-vous et développez la solidarité entre vous, et on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Charlotte de ton partage. Merci à Sandy
pour mener
cette interview magnifiquement bien.
Merci Estelle. Merci surtout Charlotte.
Ouais. C'était un plaisir pour toi d'être avec nous.
C'était un plaisir. C'est un petit challenge pour moi. Il est important ce podcast. Alors merci d'avoir fait verbaliser tout ça et de m'en faire garder une trace aussi parce que c'est là il est important.
Écoute, nous sommes ravis si ça a pu te nourrir autant que ça nous a nourri nous et que ça peut aider et nourrir nos auditeurs. À bientôt.
À bientôt.
Cet épisode vous a plu ? À vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. À bientôt sur Les Infaillibles.